États généraux. Merci d'être là. On a donc deux projets qui mêlent art et philosophie de manière différente, et avec des témoignages qui vont avec, et la discussion que ça peut provoquer. Tout d'abord, de Genève, on a la chance d'avoir Anna Berzéguian, qui est artiste, Stefan Christensen, philosophe. Malheureusement, on a une personne qui est malade, Maya Bösch, metteuse en scène, qui devait venir, qui est malade, je vous laisserai en parler. Ensuite, je vais mettre la transition pour l'autre université de Lausanne. Alors, Neubert, je vous remercie déjà d'ores et déjà d'être venu et on s'est réjoui de cette discussion. Merci beaucoup.
Merci Michel
d'être venu et on se réjouit de cette discussion. Merci beaucoup.
Merci Michel. Tout à l'heure, je parlais avec ma casquette académique, puis là, c'est pas moi. J'ai rien fait. J'ai une autre casquette. Donc, c'est celle de collaborateur de mon épouse. et pour parler effectivement d'un projet, enfin ça fait pas mal d'années qu'on fait ensemble des projets artistiques, que ce soit des œuvres plutôt vidéo-documentaires ou bien des projets d'exposition. Ici, c'était donc un projet qui a eu lieu au mois de mai dernier au Théâtre Saint-Gervais et qui s'est intitulé « Désir sans destin ». On en parlera un peu plus de la genèse de l'idée. Très rapidement, il s'agissait donc d'une exposition de vidéos qui a eu lieu dans la salle du théâtre Saint-Gervais, à Genève. Donc, on sait qu'une salle de théâtre, on l'appelle aussi la boîte noire. Et puis, bien sûr, boîte noire, c'est aussi la métaphore de l'inconscient dans certaines littératures. Et donc, voilà, on a travaillé un peu à partir de ce motif de la boîte noire pour thématiser différents aspects du désir en vidéo. Et en lien avec cette exposition, Maya Bösch, qui n'a pas pu venir ce soir malheureusement, qui est tombée malade entre hier et aujourd'hui, a fait dans une maison que nous gérons un peu plus haut dans le quartier de Saint-Jean, dans le cadre de notre association, dans laquelle nous accueillons des artistes en résidence un peu partout dans le monde. Et donc elle a fait une pièce de théâtre, entre guillemets, performance, dans la maison, dans le jardin, très grand jardin. Également autour de ce motif, de cette thématique du désir. Donc voilà, à titre d'introduction, je vous lis le texte qu'on trouvait au début du dossier de presse et aussi pour le public. On se trouve dans un espace après le crash, dans une boîte noire où tous les moments de toutes les surfaces sauvegardées du cockpit sont là, une sorte de recollection brutale de toutes les données en un point qui est le meilleur ordre du classement possible, une sorte de surabondance d'expériences immédiates sur lesquelles il n'y a pas de légende. Le temps du théâtre s'est arrêté pour une traversée dans les profondeurs et les consciences inconnues. On creuse, on révèle, on découvre, on provoque, on se questionne. Dans cet espace originaire, une tension accompagnée par les travaux d'artistes se tisse entre la scène, les gradins et l'entrée du théâtre. Les regards et gestes individuels de ces artistes, autrement présents, se superposent alors avec le mystérieux vide de cet espace qui se révèle de plus en plus comme une mémoire collective enfouie. Un espace où l'imaginaire et le symbolique sont mêlés au réel, de sorte que la dimension du réel elle-même est précarisée et envahie par des éléments indiscernables. Une articulation éthico-politique, une sorte d'écologie entre les trois registres de l'environnement, des rapports sociaux et de la subjectivité humaine pourrait éclairer les causes de cette catastrophe. Vous voyez, c'est un texte assez lourdement chargé de concepts et qui, quand même, a donné lieu à une expérience assez sensible aussi, en tout cas d'après les réactions du public. Je peux prendre l'autre micro peut-être, si bien.
Donc Donc pour peut-être expliquer un petit peu comment je suis arrivée à cette question de désir et poser ou essayer d'exprimer quelque chose qui pouvait être un désir sans destin, c'était par tout. On pourrait dire que les dernières 7 ou 5 années étaient pour moi un petit peu. Disons, l'air était un peu rempli par. Les questions de catastrophes, que ce soit les catastrophes écologiques, des catastrophes globalement, même dans des champs aussi de pensée, on pense les post-humaines, on pense le monde sans hommes, on pense le monde avec les hommes mais sans le monde. Donc il y avait toute une série aller-retour comme ça qui m'avait créé cette phrase « désir sans destin ». Donc « désir sans destin », c'était déjà en soi un autre désir. Et pour comprendre cet autre désir qui voulait un désir qui soit sans destin, il fallait aller dans les tracés du désir pour comprendre déjà, pour situer déjà qu'est-ce que c'est un désir. Donc, sur le chemin, sur les allers-retours, pour comprendre véritablement qu'est-ce que c'est le désir et quel désir m'intéresse, disons, et qu'on pourrait aussi dire que cette notion de désir était prise dans les discours plutôt par la psychanalyse, et c'est très concrètement l'arrivée de psychanalyse qui met au centre la question du désir, et que par là il y a aussi dans la philosophie ou dans l'art que cette question devienne vraiment centrale. Donc je suis allée un peu sur ces traces, et j'ai rencontré des philosophes vivants ou morts, disons par leur écrit. Et ces rencontres, ces questionnements que je voulais comprendre, pourquoi on pourrait avoir un désir qui désire pas un destin. Donc tout ce questionnement avait donné place à cette installation au Théâtre Saint-Gervais. Donc c'est un théâtre qui est un théâtre classique, donc il y a la scène et il y a les gradins, et je voulais voir aussi le théâtre comme une sorte de boîte noire, donc quelque chose qui pourrait être une boîte noire, comme on a l'habitude aussi de comprendre qu'est-ce que c'est une boîte noire. C'est toujours après une catastrophe, il y a la boîte noire de l'avion qui va nous dire qu'est-ce qui reste comme image, comme son, comme des chiffres qui vont parler pourquoi il y a eu lieu de cette catastrophe. Donc c'est avec ces questions-là que je suis partie, et j'ai fait habiter le théâtre avec des films et des installations qui, chacun de ces films ou de ces installations, ils étaient comme des ontologies, disons, différentes, qui pourraient montrer le désir à une manière pas très directe, mais un désir qui est pris, disons, dans une sorte d'agencement des circuits où il produisait quelque chose qui était plutôt un destin qui n'était pas désirable, disons. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais voilà. C'est comme ça qu'il y a eu lieu de cette installation qui était la boîte noire du désir sans destin, et qui a donné aussi lieu à ce spectacle, ou plutôt des performances avec Maya Bosch, qui était une véritable rencontre, et cette question avait beaucoup intéressé, parce qu'on était aussi un petit peu habitué de voir de voir le désir comme plutôt en lien avec la sexualité, mais que c'était peut-être possible de trouver une autre manière de présenter le désir.
Et donc, en quelque sorte, de faire de la philosophie, puisqu'il s'agissait de le généraliser un peu plus, justement, de l'extraire du domaine spécifique de la sexualité et de le faire communiquer à d'autres domaines, comme justement ce que font un certain nombre de philosophes au XXe siècle, c'est-à-dire de thématiser le désir comme une force qui nous pousse et qui n'a pas forcément un objet tout à fait déterminé. Donc là, vous avez une vue de l'exposition vue depuis la scène. C'est peut-être pas si tu mets en plein écran diaporama. Non, elle est en présentation. Hop, tout en bas. Donc on est sur la scène et on regarde en direction des gradins. Vous voyez les toiles. Ah, tu peux juste revenir. Reviens.
Attends.
Voilà. Si tu fais juste pause. Et donc Nav avait conçu un dispositif où on a des... Anna, tu peux revenir avec les images, s'il te plaît.
Mais il parle des questions.
Ok, bon, on va laisser filer comme ça. Donc vous voyez... Non, tu l'as. Non,
c'est le diaporama, je ne peux pas leur mettre, il faut aller dans.
Non, c'est pas le
diaporama, ouais,
c'est
pas le diaporama. C'est bon.
Ça y est. Ok. Et donc vous avez trois. Donc les œuvres vidéo étaient projetées sur ces toiles, et les gens, les visiteurs, le public pouvaient s'asseoir dans les gradins et regarder tranquillement le dispositif, tout en étant enveloppé aussi par cet espace théâtral dans lequel il y avait à la fois une intimité avec les œuvres et puis aussi une forme d'être avec les autres aussi. Et puis cette petite boule rouge, c'était une installation d'un artiste japonais. Juste dans le dos de la personne qui prend la photo, il y avait une grande toile. Si on prenait la petite boule rouge et qu'on allait derrière cette toile, ben, il y avait des papillons qui s'affichaient comme ça en 3D, et qui donc donnaient lieu aussi à une expérience un peu comme ça poétique. Alors, cette fois, ça doit changer dans quelques secondes. Voilà. Voilà les...
Non, c'est pas le papillon.
Non. Ça, c'était dans l'entrée sous les gradins du théâtre, une installation autour de la chienne Laika qui avait été envoyée par les soviétiques dans l'espace. Bon, ça, c'est... Alors là, comme il ne fait pas tout à fait sombre, on ne voit pas bien le contraste des... On a juste l'impression des images qui sont... Là, on voit un peu mieux les... La toile. Donc ça, mais ça correspond un petit peu à l'expérience qu'on pouvait avoir en allant dans cette salle. Et en s'essayant, en écoutant les vidéos. Et peut-être pour terminer la présentation, puisqu'il reste peu de temps. Ah oui. Quelques images de la performance de spectacle qui s'appelait Topographie Désir, donc à la maison d'Utopia. Tu l'avais dit.
Oui.
Hop, juste
une minute.
C'était déjà ouvert.
Je vais passer peut-être comme ça.
Tu peux mettre en japonais. C'était tellement joli. Ok. Donc c'était un Donc il y a dans les différentes... Ça, c'était dans une pièce de la maison qui était murée par des planches en bois. Il y avait, donc c'était un collage de textes, comme souvent chez Maya Bush, des textes de Artaud, de Bachelard, de, je ne sais plus exactement qui d'autre, mais de plusieurs écrivains. Donc là, on pouvait circuler dans la maison pendant 1h10, et chaque comédienne disait son texte. Il était aussi diffusé à travers un dispositif sonore très, très, très subtil à différents lieux du jardin, de sorte qu'il y avait une sorte d'interaction entre les voix qui était qui produisait un effet assez impressionnant. Elle a vraiment pris possession de cette maison d'une façon voilà, elle vous aurait parlé, Maya, elle vous aurait parlé de son rapport à Bachelard et de la poétique de l'espace ce soir.
Donc dans chaque pièce, il y avait des textes différents qui étaient dits, et puis dans le jardin, il y avait le consensus de tout ça.
Non, c'était pas si simple. Il y avait aussi des textes qui étaient dits dans le jardin, mais oui. Voilà.
Par exemple, elle disait pas de texte.
Non. Alors la dame oiseau, c'était à l'étage, dans une chambre, et elle était là. On pouvait monter voir, et puis elle était simplement là. Elle vous regardait. C'était assez angoissant.
Dans la cave aussi, il y avait des textes, mais pas des...
Dans la cave, il n'y avait que des petits haut-parleurs qui diffusaient ce qu'une des comédiennes disait à l'extérieur. Là, c'était plutôt corporel. Ils avaient creusé un trou au milieu du jardin où le public était appelé à venir vers la fin. Pour l'anecdote, c'était un peu dur, parce qu'à la fin mai, il faisait très froid, si vous vous rappelez. Voilà, donc c'était... C'était assez impressionnant à quel point la comédienne était aussi était endurante.
Je peux peut-être juste lire le SMS qu'elle m'envoie avant pour dire qu'elle ne va pas pouvoir venir. Mais voilà. Tout le travail est de créer des liens autrement et de travailler leur présence et que la forme assume la fonction de l'intérieur. Comme dit Maldiné, créer un rythme comme forme et fonction. Le rythme de la maison était la vie superposée de la hache.
De la hache. Oui. Mais parce que vous avez vu, il y avait une des comédiennes qui, pendant toute la durée, pendant 1h10, coupait du bois et donnait une sorte de rythme, scandait comme ça l'ensemble de la performance. Donc c'est peut-être juste pour en ce qui me concerne, je voulais conclure avec voilà ce témoignage. On a souvent eu beaucoup de discussions, donc avec moi, et puis là avec Maya, il y a eu une sorte d'extension où l'ensemble de ce projet s'est élaboré à travers un certain nombre de conversations où moi je disais souvent, donc moi je jouais le rôle du philosophe entre guillemets, non même pas sans guillemets, et où je disais, enfin souvent elles étaient un peu agacées contre moi parce que j'allais me trouver un peu trop académique, un peu trop comme ça. Puis je leur disais, mais vous avez besoin, vous êtes dans le bateau, moi je suis la quille du bateau, je suis un peu lourd, mais enfin au moins j'avais l'impression d'avoir cette fonction de maintenir une forme de stabilité. C'est juste mon impression, mais voilà, c'était aussi pour rebondir sur la discussion tout à l'heure sur ce que pourrait être le rôle d'un philosophe dans un contexte non philosophique. Et puis peut-être tu veux aussi dire un mot pour conclure, ou on passe tout de suite aux questions.
Et peut-être.
Oui, oui, on a très bien, mais il reste encore un petit peu de...
Ouais,
voilà, il reste
10 minutes.
7, ouais, ouais. 7-10 minutes.
Merci, très bien. Tu peux mettre un peu de lumière. Merci. Oui, on a quand même le temps pour, disons, 3 questions. Essayez aussi d'être assez bref
bien
dans
sûr.
Les réactions. Par rapport, évidemment, à la question et du rôle du philosophe à l'intérieur de ce type de projet et de la portée, évidemment, philosophique de ce type de projet.
Et, oui, et puis l'autre aspect aussi qui nous tient aussi à cœur, qu'Anna a suggéré, c'est la productivité de l'usage, du passage par la philosophie pour... oui, parce qu'on a aussi l'installation sonore dont on voulait diffuser quelques extraits, peut-être juste tout à l'heure. Donc il y a différents aspects.
Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, il ne marche pas.
Oui, bon, j'y vais que.
Ouais.
Sans. Ouais, bonsoir. C'est assez intéressant juste pour la fonction du philosophe. Vous arriveriez à développer un petit peu la fonction de la qui, l'autre, enfin, très concrètement. Ça veut dire vous venez avec quoi? Des textes? Parce qu'il me semble que des textes, il y en avait déjà beaucoup à la base. Donc c'est quoi? Mettre de l'ordre, même ouvrir, fermer, c'est quoi?
Voilà, oui. Alors évidemment, il y avait cette chose très, très simple et un peu pédante parfois. On a une conversation, des artistes ont lu des textes philosophiques, littéraires, et puis une conversation s'enclenche, on s'enflamme un peu, puis le philosophe qui dit pas si vite là, attention, là ce tel concept c'est plutôt comme si qu'il faudrait peut-être le comprendre, et puis donc il y a ce côté un peu de, on bride un peu l'énergie qui se déploie. Et puis, évidemment, toi, tu vas répondre aussi. Parce évidemment, les points de vue sont complémentaires, évidemment.
Allô ? Ouais. En fait, c'est de penser le désir pour pas que ça soit complètement dans le langage, mais de pouvoir l'exprimer par ailleurs, peut-être, avec les moyens autres que le langage. C'est quelque chose qui pousse quand même à comprendre qu'est-ce que c'est un langage. Donc on a quand même besoin d'aller vers celui qui comprenne qu'est-ce que c'est ce langage, et puis pour pouvoir aussi un petit peu situer dans les champs philosophiques, quand on pense ça, on se trouve dans quel champ et comment ça ne crée pas une contradiction avec l'autre quand je suis... je suis attirée par Deleuze, qu'est-ce que ça veut dire, et qu'est-ce qu'il fait là, la philosophie analytique, ou... C'est des questions très importantes pour pouvoir un petit peu, pour pas faire une sorte de borche, de pas faire juste aussi citer les philosophes, c'est ce que j'aime pas du tout, mais c'est de comprendre comment ça peut produire du sens. Et puis il y a une chose très concrète, c'est qu'on vit ensemble et notre... Je ne sais pas qui squatte l'espace de qui, ça aussi c'est assez flou. Donc...
C'est aussi ça qui... Mais c'est vrai que l'aspect langage est important parce qu'effectivement, particulièrement dans le dialogue avec l'art, il y a cette, la tentation du langage philosophique de vouloir capter la totalité du sens qui est produit, puis l'artiste qui veut évidemment pas se laisser capter, et le philosophe qui doit aussi accepter que le sens par exemple d'une vidéo évidemment doit pas pouvoir être capté par le concept. Donc c'est cette dialectique, cette tension là qu'on a pu expérimenter aussi.
Et puis peut-être une chose très importante que j'ai compris avec ce projet, de poser la question du désir, qu'est-ce que je voulais en fait, quelle est ma sensibilité et où je veux arriver avec ça. J'ai compris que j'ai une sensibilité très forte, un peu une dimension anthropologique pour comprendre la question du désir. C'est peut-être pour ça aussi que Deleuze était plus proche pour moi. En tant qu'artiste, quand je lis Deleuze, sans comprendre que c'est concept ou pas concept, ça m'ouvre un monde, des mondes, des multivers comme ça. Et ça, c'est déjà quelque chose assez fort. Mais en même temps, quand on creuse un peu plus, on peut aussi comprendre soi-même et comprendre les tensions et peut-être plus accentuer ça. Et j'ai bien compris que, par exemple, pour cette question de désir, ça m'intéresse plus la question du vivant. Qu'aujourd'hui, déjà dans un autre projet que je suis lancée pour réaliser, c'est cette question d'espace humain, non humain, le vivant et non vivant. C'est des questions qui s'enchaînent. Donc c'est vraiment, c'est un aller-retour un peu, et c'est pas peut-être seulement la philosophie, il y a aussi une très forte désir de comprendre aussi l'anthropologie actuellement. Voilà.
Voici encore, peut-être encore, en tout cas, une question, peut-être pas beaucoup plus, mais oui.
Il semble qu'il y ait une tendance quand même depuis un certain nombre d'années de verbaliser l'art. Cette tendance passe notamment par des anthropologies, philosophiques, par l'histoire de l'art aussi. Moi, il y a une chose qui me gêne finalement, c'est que comme s'il y avait finalement, vous présentez aujourd'hui à nous, comme tout à l'heure, des philosophes appliqués se sont présentés avec déjà des disciplines prédéterminées quelque part. Et je me demande si le propre, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais enfin, je me demande si le propre de l'art, ce n'est pas justement d'échapper quelque part à cette nécessité de comprendre. J'ai l'impression que c'est vraiment très récent, cette nécessité de comprendre l'art par la verbalisation qui a toujours existé a posteriori de l'œuvre d'art, comme une esthétique qui récupère l'œuvre et qui essaie de la décrire et de l'expliquer dans son contexte, je pense à l'histoire de l'art notamment. Mais depuis quelques années, me semble-t-il, je pense depuis les années 60, en tout cas peut-être avant, je pense à Joseph Kosuth notamment, la nécessité de verbaliser avant la création de l'œuvre est extrêmement prégnante chez les artistes. Est-ce que c'est pas une forme de... Est-ce que l'art n'est pas en train de se dénaturer quelque part par cette tendance à la logocratie et à la verbalisation?
Je ne sais pas, il faut dire juste, peut-être je peux dire juste une petite nuance, c'est que dans ce projet, en étant artiste, j'ai invité d'autres artistes qui ont proposé leur travail ou les films que j'ai pris pour pouvoir faire cette installation. Et ça, c'est quelque chose qui demande, on veut ou non, déjà une autre approche. Pas forcément que je vais prendre la création des autres et je vais créer ma création. C'est quand même quelque chose qui demande beaucoup comprendre déjà. Et pour pas juste avoir les autres comme juste présence. Il y a ça, mais... Par ailleurs, on peut dire aussi que l'art, il a son propre langage. Il n'y a pas besoin peut-être d'autres langages pour comprendre, mais on peut aussi dire que c'est très dur de définir aussi comme ça. Pour moi, c'est mieux de me promener. Et voilà, mes promenades m'amènent aussi chez les philosophes. Et les produits que ça donne, c'est déjà autre chose, peut-être.
Ce que je suggérais tout à l'heure, juste deux phrases, Michel, si tu remets, oui. C'est justement ce danger-là dont vous parlez, c'est-à-dire de penser qu'on a fait le tour du potentiel de sens d'une œuvre d'art en produisant une explication conceptuelle ou quelque chose comme ça. Et c'est justement cette tension dont je parlais, dont il faut être conscient et que je trouve assez passionnante, justement quand on est en tant que philosophe en dialogue productif avec des artistes, c'est de d'avoir ce moment de retrait, de ne pas vouloir posséder, justement, parce qu'effectivement c'est une maladie entre guillemets de beaucoup de fortes tendances d'art contemporain. J'ai un peu fréquenté aussi l'École des Beaux-Arts, enfin la HED à Genève, et je sais qu'il y a beaucoup chez les étudiants une sorte de complexe à l'égard du langage conceptuel philosophique. Il faut absolument, voilà. Alors ça aboutit souvent à quelque chose comme du name dropping, où là on cite un peu rapidement tel ou tel philosophe à la mode, et puis les modes vont assez vite, passer de Foucault à Deleuze, et puis maintenant c'est d'autres, je sais pas trop qui, etc. Bon, c'est évidemment quelque chose qu'il faut faire attention, quoi, bien sûr. Mais bon, c'est aussi à d'autres époques, il y avait peut-être une domination de l'art figuratif qui était ennuyeux, et voilà, donc c'est c'est effectivement une caractéristique d'aujourd'hui. Et puis justement, ce que je voulais dire, c'est que voilà, il faut maintenir la tension, et pas. C'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de ce projet. Mais on a aussi les dépliants ici que vous pouvez prendre pour avoir aussi un descriptif plus précis, plus concret de ce que ça a été.
Bon, je crois que de toute façon, tous ces états généraux, on va être chaque fois frustrés parce que chaque fois on aborde des choses depuis. Ouais. Évidemment, c'est chaque fois un tremplin pour continuer. On met particulièrement ce soir, c'est frustrant. J'espère que, évidemment, vous pouvez ensuite discuter avec les artistes, avec Stéphane, au bar. Et j'espère aussi que des questions vont être prises maintenant. Et je laisse la parole à.
On
ne
va pas rentrer tout de suite. De... Mais... Bah ouais, on enchaîne avec.
Avec donc. Michel Grunebert.
Vous laissez la place. Merci.
Je laisse la parole.
Merci, ouais. Merci pour l'attention. Voilà de la peinture figurative soviétique.
vous asseoir.
Tu voulais...
Non, je te laisse t'introduire.
Alors, cher fétichiste des concepts, si je savais su... Bon, voilà. Je prends tout de suite ma casquette du maître, des maîtres de la caverne, pour ne pas parler d'autre chose. C'est assez animant, motivant de parler de la transdisciplinarité, de ce que c'est la philosophie. J'ai quand même envie de dire que je n'ai pas quitté la philosophie analytique pour, qui fait toujours l'analyse des concepts pour me retrouver enchaîné par quelque chose comme la création du concept. Pour moi, la philosophie, ça veut dire penser, ça veut dire prendre recul par rapport à quelque chose. Si c'est un concept, si c'est autre chose, prendre recul, regarder ce qu'on fait, marcher beaucoup. Depuis Aristote jusqu'à Nietzsche, on a toujours dit que, bon, voilà, c'est pas la meilleure position pour penser ce que vous avez. Il faut être en mouvement. C'est pourquoi je ne sais pas exactement où je vais arriver. Donc, je prends la casquette et je suis censé présenter les maîtres de la caverne. Il y a un ici. Et il y a d'autres dans le public. Peut-être je commence avec, avec quelque chose avec quoi ça a commencé. Il y a quelques années, je suis arrivé à Lausanne, j'ai donné un cours sur l'érotologie de Platon, donc sur le banquet, sur le Phaedros. Et puis, parce que j'étais toujours aussi fasciné par l'art, je me suis dit, pourquoi pas, une fois, joindre la philosophie et l'art et offrir aux étudiants de donner des interprétations de ce texte de Platon, des interprétations qui ne sont pas seulement des écrits théoriques, mais d'offrir la possibilité de donner des interprétations sur scène. Et bon, voilà, j'ai offert ça aux étudiants et la moitié du séminaire, ils étaient d'accord. Et j'étais confronté avec la tâche de mettre en scène tout ça. Et bon, voilà, on l'a fait. Et on n'a pas seulement fait ça, donc à la base, c'était un projet, si vous voulez, pédagogique. Donc on apprend en jouant, en étant comédien. Mais l'autre chose, c'était aussi de donner une certaine vie à cette ancienne institution du banquet. Et donc on a créé des banquets qu'on a offerts à différents endroits. Donc il y avait des foyers privés, on pouvait nous inviter. Vous pouvez toujours nous inviter à venir à faire un banquet chez vous. Donc c'est vous qui cuisinez, si vous voulez, on peut aussi cuisiner nous. On a des capacités à cet égard aussi. On peut animer la soirée. Je peux apporter un Socrate, une diotime, si vous voulez. Et on a fait ça dans des foyers privés, dans des foyers d'artistes, dans des finalement aussi lors d'une fête à Longomaille ou au Jura. Et donc là, c'était fascinant. J'étais vraiment content de voir comment Diotime et Socrate, ils ont réussi à vraiment animer la soirée en discutant avec des gens qui n'étaient pas préparés à leurs questions. Donc, qui ont répondu à n'importe quoi, et puis ils ont dû improviser, et bon, voilà. Ça, c'était fascinant, et fasciné par cette expérience de la mise en scène du banquet, je me suis demandé la question, mais comment est-ce qu'on pourrait faire ça plus souvent avec d'autres œuvres philosophiques, parce que la plupart des œuvres philosophiques ne sont pas écrites pour être mises en scène. Donc il y a des dialogues de Platon où ça se prête encore, il y a peut-être Nietzsche avec des parties, mais donc finalement, en réfléchissant sur ce qu'on a fait là, l'idée c'était d'offrir aux étudiants plus largement d'utiliser les moyens de l'art, ce qu'on appelle de l'art, le théâtre ou le film ou autre chose, aussi la peinture ou la musique, pour exprimer, pour donner des interprétations de ce qu'ils font dans leurs études. Pas forcément la philosophie, ça peut aussi être des réflexions sur des études qu'ils font en sciences sociales ou en médecine. Et voilà, bon, finalement, j'ai trouvé l'Université de Lausanne hautement, un lieu hautement propice à cette entreprise. J'ai monté donc ce projet d'innovation pédagogique qui était soutenu par la direction, par la faculté, qui était toléré par la section de philosophie. et bon voilà, depuis ça s'est installé, on a même créé un poste pour soutenir ça. Et maintenant on est arrivé à offrir, et chaque année on définit un certain thème, et puis il y a une cinquantaine d'étudiants qui participent en écrivant des scénarios qui sont mis en scène, qui mettent en scène, qui peignent des tableaux, qui préparent, composent la musique, n'importe quel domaine. Voilà, et j'aimerais pas dire beaucoup plus. Bon, voilà. Donc, il y a une petite équipe. Donc, Adrien, il a fait partie de cette équipe. Il y a Jamil qui fait partie, et Grégory aussi. Où on gère un peu tous ces projets, parce que partie de ces projets c'est aussi de trouver de l'argent pour faire des productions là. Donc on n'est pas riche, on n'a pas les moyens pour produire tout ça, mais c'est aussi ça fait aussi partie de l'apprentissage des gens qui participent, d'aller à la recherche de l'argent pour vraiment monter un projet comme ça, voilà, par exemple. Donc si vous êtes riche, si vous avez des fondations, on a toujours besoin de soutien. Ouais, bah, on définit donc chaque année un certain thème. On a commencé avec le savon et la société. Puis l'année passée, c'était OPSIS, vision du futur, culture de la vision. Et vous allez voir maintenant trois exemples de production qu'on a fait. Et pour l'année prochaine, on a colère et désir, dans cet ordre. Parce que j'ai l'impression, parce qu'on met aussi un certain accent sur Foucault. Il y a des présentations à la Grange de Dorigny, des œuvres de mise en scène de la prison de Foucault, etc. Et Foucault, il a fait quelque chose comme la généalogie du désir. Et le désir, c'est déjà discuté en abondance. C'est pourquoi on aimerait mettre en avant un peu la colère. Voilà. Et, mais pour revenir à ce qu'on a déjà fait, on aimerait vous présenter trois exemples. Le premier exemple, c'est basé sur un séminaire en philosophie sur la République de Platon, où plusieurs étudiants aussi, ont aussi opté pour cette possibilité d'interpréter avec les moyens artistiques. Donc il y avait des gravures qui ont été faites, des tableaux, et il y avait des mises en scène, il y a des films, des compositions, toutes sortes. Finalement, il s'agissait de mettre ensemble toutes ces différentes œuvres des étudiants et de créer quelque chose qui donne une certaine... Ouais. C'était ça la question. Qu'est-ce qu'on en fait de ces différentes approches? Parce que la République de Platon, ça c'est composé de 10 livres, c'est ultra large. Donc on ne pouvait pas aspirer à vraiment représenter le tout. Donc finalement, l'idée c'était de faire un certain collage. Et au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose qu'on appelle maintenant une œuvre. D'art total. Une création commune, si vous voulez, qui a tout de même une certaine cohérence. Finalement, ce que c'est devenu, c'est une certaine déconstruction en même temps de la République de Platon, avec sa question « Comment bien vivre ensemble ?» et en même temps une déconstruction de l'œuvre d'art total qui commence avec Wagner, avec une scène de Parsifal, mais cette fois c'est pas Kundry qui est éveillé par le mauvais sorcier, mais c'est Socrate qui est réveillé encore une fois par Platon de nos jours pour nous raconter encore une fois l'histoire de cette cité dans laquelle on pourrait bien vivre ensemble. Et voilà, ce qu'on va voir maintenant, c'est ce sont différentes scènes. Cette production, ça va durer 10 minutes, et puis on va passer à un autre projet. Je remercie Adrien pour avoir composé ces extraits.
Je ne veux pas. Je dors.
Ah, voici qui grimpe les escaliers.
Garde-les.
Ah, mais ils sont beaux.
Garde-les. Dans ton jardin d'idées.
On n'attend pas de toi que tu nous conduis gentiment à comprendre. Dis-nous, simplement, pour une fois, ce qui te semble vrai.
Comme si ça fonctionnait. Moi, si tu insistes, bien sûr que je peux te dire en quoi consiste la justice dans une phrase. C'est très simple, mon cher Dieu. Le juste, c'est quand chacun fait ce qui lui est propre et rien d'autre. Maintenant, pour revenir à là, à dit.
C'est un peu trop bref, quand même. Vérifions si j'ai bien compris. Si, par exemple, je deviens politicien et Adi artiste, je ne m'occupe que de politique et ne me mets pas des affaires d'Adi. Et elle s'occupe de l'art.
Oui, mais l'art n'est pas apolitique quand même.
On ne permettra donc pas l'imitation du menteur.
On se laisse griser. La scène du champagne vous monte à la tête. On divague. On se sent alors aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou rembassonne à travers les romans lorsque, dans la clarté d'un pâle réverbère, passe une demoiselle aux petits airs charmants sous l'ombre du faux col effrayant de son cœur. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne, alerte, et d'un mouvement vif, sur vos lèvres alors meurt les cavatifs. Vous êtes amoureux ? Oui, jusqu'au mois d'août, vous êtes amoureux, faut sonner la fourrure. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adoré, un soir, a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants. Commander des bacs, de la limonade. Il n'est pas sérieux quand on a 17 ans, qu'on a des tioles verts sur la promenade.
crois-tu de l'art?
J'ai été un peu provocateur en menaçant par le bannissement. Mon disciple le plus ambitieux a bien répondu, pour une fois, avec son idée de catharsis. Il ne faut pas bannir tout, il faut juste veiller aux critères de qualité.
La censure.
La qualité.
Du tout. Il veut. Il veut quoi? C'est un vice très fréquent, une maladie très courante aujourd'hui. C'est un cas de ventroplasie. Le ventre, mademoiselle, votre ventre est énorme. Vous voyez, il devient de plus en plus large. Et comme il est aussi rapide, je sens qu'il va bientôt monter jusqu'à votre tête. Écoutez-moi, la peur est bouchée. Vous pas comme la colère, c'est-à-dire une émotion.
Oui, bien sûr.
Et le désir, ce désir que vous sentez d'accoucher, n'est-il pas aussi une émotion?
Pas du tout. Il est plutôt une nécessité.
C'est votre
modèle
qui sait. Elle qui commande, qui ordonne.
Ah, c'est
qui m'a tout seul,
ça.
C'est elle.
C'est elle
qui décide
de m'acheter. Al patros, hier service. Al patros, si al gamo, si al fame. Lui, apprendi, lui, apprendi, natai. Valete, valete, lo sai, che lo sai, che lui, ma tu sai, che lui, ma tu sai, ma lo finesse, ma lo finesse, potete. E l'este dovrebbe, l'este dovrebbe. Al patros, al
pourquoi l'azur muet, l'espace insondable? Si on montait toujours, que verrait-on là-haut? Un pasteur mène-t-il cet immense troupeau de mondes cheminant dans l'horreur de l'espace? Et tous ces mondes-là que la terre vaste embrasse, vibrent-ils aux accents d'une éternelle voix? Et l'homme peut-il voir, peut-il dire « je crois » La voix de la pensée est-elle plus qu'un rêve? Si l'homme est si tôt, si la vie est si brève, d'où vient-il? Sombre-t-il au fond de l'océan, des gènes, des fœtus, des embryons? Au fond de l'immense creuset de la mère nature le ressuscitera.
Comme disait mon ami Sophocle, quand quelqu'un lui a demandé à propos de Aphrodite, hé, Sophocle, est-ce que tu peux encore faire l'amour? Alors Sophocle lui a répondu, oh, n'en parle plus, c'est avec une grande satisfaction que je me délivrerai de cette maîtresse.
Le théâtre, vous ne savez pas ce que c'est. Il y a la scène et la salle. Tout est en clos. Les gens viennent là le soir et ils sont assis par rangées les uns derrière les autres, regardant. Ils regardent le rideau de la scène et ce qu'il y a derrière quand il est levé. Et il arrive quelque chose sur la scène comme si c'était vrai. Je les regarde, et la salle n'est rien que de la chair vivante et habillée. Et ils garnissent les murs comme des mouches jusqu'au plafond. Et je vois ces centaines de visages blancs. L'homme s'ennuie, et l'ignorance lui est attachée depuis sa naissance. Et ne sachant de rien comment cela commence ou finit, c'est pour cela qu'il va au théâtre. Et il se regarde lui-même, les mains posées sur les genoux, et il pleure, et il rit, et il n'a point envie de s'en aller. Et je les regarde aussi, et je sais qu'il y a là le caissier qui sait que demain on vérifiera les livres, et la mère adultère dont l'enfant vient de tomber malade, et celui qui vient de voler pour la première fois, et celui qui n'a rien fait de toujours. Et il regarde et écoute comme s'il dormait. L'homme se regarde lui-même et il croit qu'il se voit. Il vit de cette autre présence, de cette vision. Ce n'est qu'un vertige. En fait, on peut dire aussi bien qu'il cesse d'exister.
Bon, voilà, c'est un peu... En outre, on va répéter, cette pièce va être représentée encore une fois au mois d'octobre, donc si vous avez envie de connaître mieux la République de Platon et comment on pourrait la dépasser, vous êtes bien invités, il y a des flyers sur la table. Et on cherche en outre aussi des derviches. Des derviches qui imitent le mouvement de l'univers, donc le rond, donc quelque chose de spirituel. Il y a des étudiantes, c'est toujours le problème avec les étudiantes qui sont là pendant un semestre en Erasmus, et puis ils partent après, et si on veut répéter la représentation un semestre après, il y a des étudiants qui manquent. Donc si quelqu'un a envie d'apprendre de tourner comme un derviche, c'est une méditation en mouvement, c'est fascinant. Vous tournez pendant 10 minutes, vous n'avez pas de vertige après, si tout va bien. Bon, voilà. Maintenant, ça c'est un projet qui était basé sur un séminaire. Maintenant, vous allez voir un autre, un extrait d'un film qu'a préparé Adrien Bordone, aussi sur le thème vision du futur. Là, c'était un peu moins déconstructiviste, idéaliste, mais un peu plus réaliste, parce qu'à la base, lui, il est un artiste. Et bon, voilà, je vous laisse regarder. Peut-être tu aimerais dire quelque chose quand même.
Non, bah, je vais vous montrer donc un extrait d'un film qui dure 28 minutes. Là, je vous montre 5 minutes du film, donc les 5 premières minutes. L'idée du film est venue en fait d'un truc très concret qui était juste de voir. Enfin, ça m'intéressait de savoir ce que faisaient les gens le dimanche. Enfin, j'ai l'habitude de ne pas voir mes amis le dimanche, j'avais envie de les filmer le dimanche. Qu'est-ce qu'ils faisaient de leur temps libre, quelles idées ils avaient. Donc c'était un truc très concret de curiosité, d'entrer dans le dimanche des gens, de voir ce qu'ils font. Et au niveau un petit peu idéologique, de voir quelles idées on a encore. Voilà, moi j'ai 25 ans, les jeunes de mon âge, quelles idées ils ont encore aujourd'hui par rapport au futur. Est-ce qu'il y a encore une idéologie qui est valable? Est-ce qu'on défend? Quelles idées on peut défendre? Enfin, il y a plusieurs couches comme ça qui... Donc je vous montre les 5 premières minutes du film qui passent aussi au point virgule, il y a des flyers. En espérant que ça marche.
Moi, j'existe plus, hein.
Toi, tu existes. Ok. Maintenant. C'est bon ?
Ouais.
C'est bon ?
Ouais.
J'ai perdu l'objectif.
Vas-y, sérieusement, maintenant tu fais vraiment comme si j'étais
pas
là.
Faut pas regarder l'objectif.
Non, faut pas regarder. Puis tu fais vraiment pendant 2 minutes comme si j'étais pas là, vraiment.
Ouais. Merde, j'ai pas l'objectif. Sur film.
Thank you.
révolution. On n'ouvre pas pour que dans le monde comme ça. Ouais, si je crois en une cause et puis que j'aimerais que ça se provoque, si je crois en ça, ouais, j'aimerais que ça se provoque. C'est comme ça qu'on doit subir une révolution. Donc, ce serait gagner un jour à l'Euro Million et devenir millionnaire et puis de partir très loin puis de profiter de la vie sur les cocotiers.
Aussi été choisi pour être présenté encore une fois au festival Point Virgule à la Grange de Dorigny. Par rapport à la Grange de Dorigny, j'aimerais dire que on aimerait aller plutôt dans la direction de créer plus de liens entre ce qui se passe sur le campus et ce qui se passe en ville. Donc vous êtes bien invité de venir voir là ce qui se passe. Ce théâtre de la Grange, c'est un endroit exceptionnel parce qu'on peut expérimenter là. On n'est pas sous une pression économique, financière, de gagner de l'argent. Donc on peut vraiment expérimenter. Donc venez voir une fois. Et Adrien, donc, lui, il a fait ça indépendamment d'un certain séminaire spécifique. Mais il est aussi étudiant en philo. Maintenant, le troisième projet, c'est complètement indépendamment de la philosophie. Ça constitue plutôt... donc, il y a deux étudiants là, Gilles, qui arrive déjà, et Grégory, qui ont suivi un séminaire de rhétorique avec une collègue, une professeure, et qui ont ensuite développé un shoot oratoire autour de la question est-ce qu'on peut éviter la guerre ou est-ce que la guerre est nécessaire.
Donc c'est 5 minutes, c'est ça.
5 minutes.
Est-ce qu'on...
Oui. Est-ce que vous êtes prêts?
Vous savez, personne ne tue son voisin, ne se fait exploser au milieu d'une foule par pur mécontentement. Mais n'importe qui finit un jour par céder à l'idiome universel de la violence. Lorsque chaque jour ses droits sont bafoués, lorsque chaque jour il voit les valeurs qui mènent sa vie être foulées aux pieds. Dans le désespoir,
On apprend malheureusement à parler la langue des oppresseurs. On écoute la voix criarde des médias. On écoute le grondement d'une foule en colère. Mais la voix d'une minorité, ça passe inaperçu dans le vacarme étatique. Le bruit d'une bombe, ça retentit. Ça fait des morts, ça fait des blessés. Ça casse le train-train quotidien, forcément. Et forcément, ça pousse à remettre en question les mécaniques du système. La guerre, c'est le cri de désespoir de ceux qu'on fait taire chaque jour. C'est la réponse aux promesses honteuses des gouvernements. C'est la monnaie rendue pour la pièce qui est depuis toujours mondiale et qui a un avantage malheureux, c'est d'avoir un cours constant.
Mais oui, je vous vois venir. La guerre pour le bien de l'humanité. La boucherie est permise. Tant que ça paye, on ne se demande pas si d'autres solutions sont possibles. On se contente d'une macabre équation. On a bien un système de mesure. Les généraux ne voient leurs soldats que du haut d'une carte. Combien de morts faut-il encore sacrifier pour remporter notre guerre ? Bataille de la Marne, les cons sont favorables, ça tape dans le 1000 vies par kilomètre. Par contre, Verdun, l'équation se fait sentir quand un mètre nous coûte 1200 vies. C'est comme ça que vous imaginez le futur, à l'image du passé. Vous ne voyez pas tout le chemin que nous parcourons, que nous avons parcouru pour nous débarrasser de cette guerre. Puisque nous savons à présent que la guerre n'est pas l'unique moyen de revendiquer, puisque nous avons appris des conséquences tragiques de nos erreurs passées, puisque les cadavres des massacres précédents ne se cachent plus, mais se font porter par les artistes, puisque l'humanité ne veut plus être témoin de son absurde suicide, le futur, nous ne pouvons que l'imaginer sans guerre.
En mai 68, on imaginait plein de choses. On ouvrait un monde de possibilités, un renversement de la hiérarchie. Qu'a-t-on fait ? On s'est contenté de fermer les portes. On a bâillonné les protestataires et avec eux, les possibilités de changement. Un monde sans guerre. Oui, je l'imagine. Mais avant, je dois imaginer un monde sans argent, sans profession, sans possession, sans nation. Et là, je dois avouer que mon imagination s'enraye en pleine rafale. Il faudrait, du consentement commun de 10 milliards d'êtres humains, faire table rase, proférer comme ça. Ah, bah zut alors ! Ce que nos parents nous ont appris à aimer n'est qu'un enfer qu'ils ont construit pour nous. Allez, au boulot ! Reste plus qu'à tout recommencer et tout reconstruire depuis zéro. La vie est déjà bien assez compliquée, prise jour après jour, pour que nous puissions encore anticiper sur les désastres de demain, tous les drames irréversibles qui s'amorcent dans nos problèmes laissés à plus tard. Votre solution marche, oui, mais en définitive, dans une bulle de rêve idéaliste. C'est sa réalisation qui ne peut pas être considérée sérieusement. Soyez réaliste. Thomas More a eu l'humilité d'appeler son monde utopie. Suivez son exemple.
Notre futur est à l'image de ce qu'on imagine. Je ne dis pas qu'il suffit d'une simple pensée, juste d'une idée, pour qu'on s'oriente vers celle-ci. Je dis que l'imaginer est le premier pas vers sa réalisation. En effet, comment on peut se diriger vers une fin de la guerre si on ne peut même pas se la représenter ? Parler d'utopie. Si je défendais une utopie, je vous promettrais un monde parfait, un monde sans souffrance, un monde dans lequel des petites poneys arc-en-ciel débouleraient du ciel. Ils seraient chevauchés par Père Noël, je suppose, exaucant tous les souhaits des souffreteux. Je suis loin de défendre un tel monde. Il donne envie, certes, on aimerait y vivre, c'est vrai. Mais je veux consacrer mon énergie à défendre le possible. Quel possible ? Un futur sans guerre. Et non sans conflit, je précise encore, mais des conflits se résolvant de manière non violente. Traiter cette idée d'utopie, c'est partir du principe que vous n'allez rien faire pour la concrétiser. C'est se placer en homme de guerre qui tente, coûte que coûte, de retenir l'humanité dans ce vice. Sachez, monsieur, que la paix, soit on l'aime, soit on la quitte. Et j'ai du mal à imaginer comment vous pouvez garder votre intégrité vous plaçant en ennemi de la paix.
Ne soyez pas enfantin.
Et voilà. On ose dire deux mots. Ne quittez pas tout de suite, c'est très rapide, vous en faites pas. On est aussi au point virgule. Normalement, il y a aussi un présentateur. Si vous regardez dans les flyers, ça décrit un petit peu ce qu'est le projet, une sorte de faux débat télévisé. Donc on a aussi un présentateur qui vient, qui n'est pas là aujourd'hui, il n'a pas pu venir. Il ajoute vraiment son grain de sel. Il est vraiment qu'un petit bâton en train de nous donner des petits coups pour nous forcer à nous entre-déchirer. On espère en tout cas vous voir au point virgule. Et merci de votre attention.
Merci. Alors, on n'a malheureusement pas le temps pour une discussion. Il faut qu'on abrège aussi, hein, parce qu'on avait prévu les deux interventions avec ce temps. Mais évidemment, par contre, vous pouvez maintenant discuter de manière informelle.